Chapitre 5. L'affirmation de l'État dans le Royaume de France. Cours 3. Les limites de l'autorité royale. Malgré ses efforts de contrôle et son discours autoritaire, l'État n'est pas tout-puissant. Le pouvoir du roi est limité en droit par un certain nombre de règles et d'institutions et de fait par l'étendue du royaume et des privilèges. A. Les limites institutionnelles. Les lois fondamentales. Le roi n'est pas un tyran libre d'agir à sa guise. Il doit respecter les lois divines en faisant régner la justice. Il doit aussi respecter les lois fondamentales du royaume, un ensemble de règles coutumières qui limitent sa souveraineté. Elles ont été élaborées progressivement. La loi salique a été théorisée au XIVe siècle pour exclure les femmes de la succession et éviter ainsi que la couronne ne passe aux Anglais. La loi de catholicité a été ajoutée quand Henri IV a renoncé au protestantisme en 1593 pour devenir roi. Les États généraux et provinciaux. Le roi doit aussi s'assurer du consentement de ses sujets en dialoguant avec les États généraux qui réunissent des représentants du clergé, de la noblesse et des villes, le tiers-État. Mais ceux-ci ne sont plus convoqués entre 1614 et 1788. L'équivalent existe cependant dans certaines provinces qualifiées de pays d'État, Bourgogne, Bretagne, Languedoc, Provence. Là, le roi doit consulter les États provinciaux, notamment pour les impôts. Les parlements. Le déclin des États généraux profite aux parlements qui se considèrent de plus en plus comme les représentants de la nation. Ces cours de justice ont en effet un rôle politique. Elles doivent enregistrer les actes royaux et elles peuvent demander des modifications grâce à leur droit de remontrance. Les rois ont régulièrement essayé de restreindre ce droit en imposant leur autorité. Lors de ces crises, les parlementaires sont apparus comme les défenseurs des libertés contre le despotisme. B. Une emprise incomplète sur le royaume. Pouvoir central et privilèges. L'administration se heurte à des obstacles concrets dans un royaume très étendu. Sous le règne de François Ier, il faut plus d'une semaine pour aller de Paris à Rennes. Surtout, la société d'Ancien Régime est une juxtaposition de communautés et de provinces jouissant de multiples privilèges, ce qui freine les projets d'unification de l'État moderne. La plupart des révoltes paysannes sont provoquées ainsi par la volonté du roi de supprimer un avantage fiscal dans une province. Le roi et la noblesse. Le principal corps privilégié est bien sûr la noblesse. À partir du XIIIe siècle, la monarchie a accru son autorité aux dépens de la féodalité en cherchant à limiter le rôle politique de la noblesse. Les révoltes nobiliaires sont nombreuses, jusqu'à la Fronde, 1648-1653. Louis XIV parvient ensuite à encadrer et pacifier la noblesse en organisant la cour de Versailles. Toutefois, le roi, premier des nobles, ne saurait remettre fondamentalement en cause les privilèges sans ébranler la société d'ordre. C'est une monarchie pas si absolue. Les discours et les réalités. Le terme « absolutisme » créé sous la Révolution française pour dénoncer la monarchie d'Ancien Régime comme un régime despotique semble donc peu adéquat. La monarchie absolue existe moins dans la réalité que dans les discours à la gloire du roi qui se multiplient sous Louis XIV à l'initiative de Colbert. Les historiens préfèrent aujourd'hui parler de monarchie administrative ou d'affirmation de l'État moderne et ils insistent sur les failles du contrôle étatique. Les impasses de la monarchie. Comme le roi ne peut augmenter les impôts sans remettre en cause l'exemption du clergé et de la noblesse, il doit trouver d'autres ressources. La vente des offices en est une, mais elle a une conséquence lourde. La plupart des agents de l'État sont des officiers qui ont acheté une charge, qu'il exerce à vie et peuvent la revendre ou la transmettre à leur héritier. Ces charges permettent souvent d'accéder à la noblesse et donc d'échapper à l'impôt. Par ailleurs, le roi sous-traite le prélèvement de l'impôt aux financiers de la ferme générale parce que ceux-ci sont en mesure de lui avancer l'argent. Des liens étroits de dépendance lient donc l'État et les riches privilégiés.